Ce matin, j'ai vraiment été encouragé de voir que c'est le Saint-Esprit qui contrôle son Église. J'ai été fortement encouragé parce que les deux dons spirituels sont dans la direction du message de ce matin. On a entendu parler de pensées, de choses où le Seigneur veut nous amener, de victoires encore à conquérir. Et le titre du message de ce matin, c'est « Remporter la bataille de nos pensées ». Remporter la bataille de nos pensées. Ce matin, on va parler de combat, on va parler d'armes, on va parler de forteresses à renverser, on va parler de bataille. Pourquoi ? Pourquoi on parle de choses guerrières ce matin ? Parce que vous conviendrez comme moi que suivre et marcher avec Jésus ne nous exclut pas des combats et des luttes. Bien que nous soyons au bénéfice de l'œuvre de Jésus, qui a donné sa vie à la croix pour porter nos fautes, pour porter nos manquements, pour porter nos erreurs, et qu'il a fait de nous des fils et des filles de rois, il n'en demeure pas moins que nous ne sommes pas aveugles sur les combats de la vie dans lesquels nous sommes tous plongés. Je crois que plusieurs seraient d'accord avec moi ce matin pour dire que la vie chrétienne n'est pas une vie avec un long fleuve tranquille. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Qui ne s'est jamais dit que marcher par la foi était difficile lorsqu'il constate ses chutes régulières, lorsqu'il se bat avec des choses qui n'en finissent plus et qui commencent à semer le trouble dans son cœur? Voici quelques statistiques ce matin de George Barna, qui est un chercheur chrétien, qui démontre que les croyants vivent les mêmes luttes que n'importe quel autre membre de la population. Ces statistiques, elles viennent des États-Unis, mais croyez-moi bien que le cœur de l'homme, il est le même partout. Aux États-Unis, on relève que 27% des non-croyants ont acheté un ticket de loterie la semaine dernière. 23% des croyants ont fait la même chose la semaine dernière. 87% des non-croyants on regardait un film X ces trois derniers mois. 76% chez les chrétiens. Le taux de divorce est de 23% chez les non-croyants. Il est de 27% chez les chrétiens. Ces statistiques proviennent des années 2000. Elles sont tirées, vous pourrez les retrouver dans le livre de Un temps de rafraîchissement du pasteur Jim Cimbala de l'église Brooklyn Tabernacle. Vous pourrez retrouver tout ça dans le livre, il explique bien. Donc ça date des années 2000, mais croyez-moi qu'on est toujours, voire plus, dans ce qui était annoncé. Alors bien que ces statistiques, elles proviennent des États-Unis, tous ceux qui ont un rôle d'accompagnement des gens dans les églises seront d'accord avec moi pour vous confirmer que beaucoup plus de chrétiens mènent ce genre de combat dans le quotidien. Tous ceux qui accompagnent des gens semaine après semaine, des croyants, savent la réalité de ce que certains peuvent vivre comme combat et comme difficulté. Mais ce matin, je ne suis pas venu là pour vous démoraliser. Ces chiffres, ils ne sont pas là pour nous faire peur. Ils ne sont pas là pour nous faire sombrer dans le défaitisme, mais je crois qu'ils sont là pour nous aider à identifier le problème. Jésus nous a donné le moyen de nous en sortir, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Jean 10:10 nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette parole de Jésus nous parle d'une vie épanouie qu'il veut pour nous. Une vie de liberté face au péché. Une vie de liberté face aux mauvaises passions qui peuvent nous animer. Jésus ne nous propose pas une survie à la mode Koh-Lanta. On n'est pas là pour survivre dans notre vie chrétienne. Mais on est là pour vivre quelque chose de différent, quelque chose de fort et qui nous porte. Jésus ne nous parle pas d'une vie où nous continuons à être dominés par le péché, à être liés par les ténèbres, mais à une vie de victoire libre en lui. Amen. Mais avant de pouvoir parler de victoire, nous devons savoir où la bataille prend place. Où est-ce que le combat se déroule dans ma vie? Où est-ce que la guerre fait rage dans mon cœur? Bien répondre à cette question va nous permettre de choisir les bonnes armes et de les diriger dans la bonne zone de tir. Et ceci afin de faire mouche. Vous savez, on peut avoir une Kalachnikov, mais si la cible est là et que je tire là, ça ne fera pas mouche. Il est important d'identifier d'où vient le combat, afin d'orienter notre tir dans la bonne zone. Le premier point que j'ai soulevé ce matin, c'est que nos pensées sont le lieu de bataille. On fait une lecture dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, et je vais vous lire dans la version Nouvelle Bible Seconde qui va s'afficher. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. Dans ces quelques versets, Paul parle du combat que les croyants ont à mener. Il parle d'armes, il parle de combat, il parle de forteresses à démolir. Et il poursuit son développement en disant que ce qu'il y a à démolir, c'est des raisonnements qui s'élèvent comme des hauteurs, et qui entravent notre relation avec Jésus, qui entravent notre relation avec Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que le mot hauteur vient du grec hupsoma, qui signifie une chose élevée, une structure élevée, une barrière, un rempart, une muraille. Paul dit que les forteresses de raisonnement entravent notre connaissance de Dieu, qui, je le rappelle, est un euphémisme pour parler de relations intimes, quand on parle de connaissance de Dieu. Quand vous voyez le mot connaissance dans la Bible, on parle de relations intimes. Et quand on parle de connaissance entre un homme et une femme, on parle de relations dans le couple sexuel. Il y a des murs de raisonnement qui entravent notre connexion, notre relation intime avec Dieu. Ici, il est question d'un combat qui ne se voit pas, mais qui est mené en chacun d'entre nous. Paul poursuit en expliquant que nous avons besoin d'amener nos pensées captives devant Jésus en nous soumettant à lui par l'obéissance. La question est de savoir ce matin qu'est-ce qui influence ma vie. Le deuxième point, je l'ai appelé « Nous agissons toujours », mais j'ai pas mis le « toujours », mais « Nous agissons toujours en fonction de ce que nous croyons ». Éphésiens 4, 17 à 18 nous dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Paul explique ici que celui qui ne marche pas avec Dieu, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ils sont conduits par leurs pensées futiles et agissent en ce sens. L'être humain agit et fonctionne en fonction de ce qu'il croit. L'être humain agit toujours en fonction de ce qu'il croit. Nos actions sont toujours le produit de nos pensées. Le livre de la Genèse nous explique qu'avant la chute dans le jardin d'Éden, Adam et Ève jouissaient d'une communion parfaite avec le Créateur, avec Dieu. Mais à partir du moment où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, cette communion parfaite a été coupée. Comment Satan s'y est-il pris ? Il est venu leur faire croire qu'en désobéissant à Dieu, ils pourraient avoir une vie meilleure en étant comme Dieu. Et il a mis en doute le fait que manger de ce fruit les ferait mourir. Parce que Adam et Ève ont cru au mensonge de Satan, ils ont été pris dans son filet. À partir de cet événement, et dans la succession de l'humanité, les pensées de l'homme de toutes les générations ont été obscurcies à cause de cette séparation d'avec Dieu, et notre volonté elle a été affaiblie. Le péché n'est pas seulement faire ce qui est bien ou mal, mais c'est une puissance utilisée par Satan pour nous détourner et pour nous faire douter du chemin que Dieu a tracé pour nous. Le péché est la puissance de Satan pour nous tenir sous sa coupe. Et il se manifeste sous plusieurs formes, telles que le mensonge, le doute, la peur, l'immoralité, la violence, etc., etc. L'homme a perdu le pouvoir de vouloir faire ses choix en harmonie avec la volonté de Dieu. L'homme sans Dieu n'a que deux sources d'influence pour ses choix, sa propre volonté et la puissance du péché qui vient de Satan. Mais maintenant, on va regarder ce qui se passe pour quelqu'un qui marche avec Jésus. Le troisième point nous dit que le Saint-Esprit veut nous communiquer les pensées de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10 à 12. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Une des choses qui se produit lorsque une personne décide de marcher avec Jésus, lorsqu'elle décide de placer sa confiance en lui, lorsqu'elle décide de lui remettre sa vie, c'est que le péché qui était comme un mur de séparation entre nous et Dieu est démoli par l'œuvre de la croix. Comme nous l'avons dit en introduction, Jésus a porté notre condamnation à la croix afin que notre relation soit rétablie, afin qu'il n'y ait plus de perturbations ou de parasites, on pourrait dire. Le passage que nous venons de lire, c'est qu'en tant que croyants, nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous permet de connaître les choses de Dieu, qui nous permet de connaître la volonté de Dieu pour nous et d'y agir en conséquence. Dans Éphésiens 4, 20-24, on lit que « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien lui que vous avez entendu et si c'est lui que vous avez été instruit, conformément à la vérité qui est en Jésus. » Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Le rôle de l'Esprit, le rôle du Saint-Esprit est de renouveler notre intelligence, de renouveler nos pensées, afin que nous agissions en fonction de la vérité qui vient de Dieu. Et ce passage affirme que l'influence de la vérité produit la justice et la sainteté. Tout ce que nous venons de voir, c'est que les croyants ont le privilège de pouvoir connaître la pensée de Dieu. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Est-ce qu'on n'est pas content ce matin de savoir qu'il nous est possible de connaître ce que Dieu veut pour nous ? De ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, de ce que Dieu veut, de la manière dont Dieu veut que nous agissions. C'est pas merveilleux, ça ? Le croyant a trois sources d'influence : sa volonté propre, la volonté de Dieu, mais aussi la puissance du péché, les mensonges de Satan qui cherchent à venir mettre dans nos esprits. Et le quatrième point ce matin, c'est que nous devons opposer les mensonges de Satan à la vérité de Dieu. Pour marcher en vainqueur, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est d'amener nos pensées captives, c'est d'amener ce qui nous bourdonne à l'intérieur de nous devant le trône de la grâce, devant Jésus. C'est-à-dire comparer et confronter ce que nous croyons à la vérité de Dieu transmise par sa parole et qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. La question que je nous pose ce matin, c'est est-ce que tout ce que je pense, ça vient de Dieu ? Est-ce que tout ce en quoi je mets ma confiance, ça vient de Dieu ? Il nous faut chaque jour confronter nos pensées à la lumière de la parole de Dieu. Quelles sont mes sources d'influence ? Puisque nous agissons toujours en fonction de ce que nous croyons, la question ce matin, c'est avec quoi je nourris mon esprit ? Quelqu'un à qui on a tout le temps dit que c'était un bon à rien va finir par croire que c'est la réalité sur sa vie. Et donc il ne va pas essayer d'entreprendre des choses parce qu'il croit que ce qu'il va faire, ça va échouer. Pourquoi ? Il agit simplement en fonction de ce qu'il croit sur lui-même. Et je crois que ça rejoint vraiment un des dons spirituels de ce matin. De croire qu'on n'est pas capable. Si Dieu le dit, c'est possible. Il y a plein et plein de gens qui vivent liés, prisonnier par les mensonges de Satan. Et je le crois fortement. À l'épi, ce matin, j'étais dans le train et le Saint-Esprit n'a pas arrêté de me parler d'une situation et je ne voulais vraiment pas le dire. J'ai une amie qui était issue d'autres milieux chrétiens. Elle est arrivée dans l'église il y a quelques années et elle était persuadée qu'elle était possédée par des démons. Et à chaque fois qu'on priait pour elle, c'est comme s'il y avait quelques manifestations. Jusqu'au jour où le Seigneur a mis dans mon cœur qu'il fallait qu'elle croie et qu'elle soit libre. Il m'a donné cette parole où il invitait Lazare à sortir de sa tombe. Et en fait, elle était prisonnière d'un système de mensonges dans lequel on l'avait enseignée. Qu'un chrétien convaincu, un chrétien qui a donné pleinement sa vie, pouvait encore avoir des problèmes avec des démons qui habitent en lui. À partir du moment où elle a saisi cette vérité que ce n'était pas possible pour sa vie, il n'y a plus jamais eu de manifestation. Et plus jamais elle est revenue avec ça, parce qu'elle n'avait plus de problème, elle était libre. Parce qu'elle a opposé le mensonge de Satan qui était dans sa tête aux choses de la parole de Dieu qui disait qu'elle était un enfant de Dieu et que le Saint-Esprit y cohabite pas avec les ennemis. Alors bien sûr, on parle d'un croyant authentique, de quelqu'un qui a décidé complètement de marcher avec Jésus, qui a renoncé à son péché, qui s'est repenti pour ses erreurs. Elle a été libre. Libre d'un mensonge. Vous savez comment ça se passe? Souvent, on a l'impression, en tant que chrétien, qu'on est comme une boule, comme une balle, entre d'un côté Satan et d'un côté Jésus. Et on a l'impression que c'est deux chiens qui nous tirent dessus et qui sont aussi forts l'un que l'autre. Mais la Bible, elle dit autre chose. La Bible, elle dit que Satan, il est lié. Amen. Elle dit que Satan, il est lié, il est limité dans ce qu'il peut faire. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? J'ai demandé à Thierry de se lever. On avait fait cette petite démonstration avec une personne, mais on va le faire. Viens Thierry, approche-toi. Ça, on va dire que c'est le piquet. Ça, on va dire que c'est la chaîne. Tu t'arrêtes à peu près à cette distance. Voilà. Alors, Thierry n'est pas Satan, mais pour la démonstration ce matin, on va l'utiliser tout comme. La Bible dit que Satan est lié, limité dans ce qu'il peut faire. Si je me tiens ici avec la vérité de la parole de Dieu, est-ce que Satan peut m'atteindre? Non. Par contre, s'il commence à me susurrer des choses, vas-y, dis-moi quelque chose qui me fait venir à toi. Voilà, c'est beau là. Vous entendez ça? C'est beau là. Il commence à venir mettre son mensonge en nous. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis dans sa sphère d'influence? Il me croque. Et beaucoup de chrétiens sont liés par la puissance des ténèbres à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il donne, de la place aux mensonges de l'ennemi. Et il commence à prendre ses mensonges pour des vérités. La Bible dit que Satan, il est lié, c'est Jésus le grand vainqueur. Oui, il agit encore et on sait que Jésus va revenir pour le balayer complètement, on le sait. Mais il est possible pour les croyants de saisir aujourd'hui la vérité de Dieu. Il y a une chose qui est importante dans la parole de Dieu, merci Thierry, sois béni. C'est que Jésus nous accorde la vie éternelle. Et beaucoup de croyants pensent que la vie éternelle, c'est quand on sera mort et qu'on sera avec Jésus. Sauf que quand on prend le texte grec, il nous est parlé de Zoé. La vie éternelle. Et quand on lit Jean 17,3, Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Il ne nous est pas parlé de l'au-delà et de ce qui va se passer après. Bien sûr, ça en fait partie. Mais la vie éternelle, ce n'est pas juste de survivre difficilement sur cette terre en étant lié, en disant j'ai l'espérance de la vie éternelle quand je serai au ciel. La vie éternelle est la manifestation du royaume, c'est pour maintenant. Ça commence à agir aujourd'hui. Ça sera pleinement révélé quand Jésus sera revenu, quand nous serons glorifiés et toutes ces choses. Mais ça commence maintenant, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça, c'est ce que disait Jésus. Satan cherche à nous maintenir par ses mensonges. Puisque nous avons toujours agi en fonction de ce que nous croyons, il est important de nourrir notre esprit avec les choses qui viennent de Dieu. Et il est de notre responsabilité de veiller à ce qui vient nous influencer. Et c'est ce que Proverbe 4, 23 nous le dit. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce que nous voyons dans ce proverbe, c'est que premièrement, c'est à nous de veiller. Ça vous est jamais arrivé de prier « Seigneur, garde mon cœur ?» C'est une belle prière. Et pourtant, Jésus nous donne déjà la réponse. Pas besoin, je garde ton cœur puisque c'est ta mission. Moi, je suis avec toi. C'est ça que nous dit Jésus. Mais c'est à toi d'être responsable de ta vie. C'est à toi d'être responsable des sources d'influence qui viennent dans ton cœur. C'est une responsabilité qui nous incombe à chacun. Jésus ne veut pas faire des croyants qui dépendent d'un ministère qui va sans cesse invoquer la bénédiction pour eux. Oui, le Seigneur utilise ses envoyés. Mais au bout d'un moment, il est à nous de saisir notre identité en Christ et de ce que Jésus nous donne par la puissance de la vie éternelle qui veut agir en nous. C'est à nous de saisir les vérités et les promesses de Dieu pour nos propres vies. C'est à nous d'exercer, quand on parle de veiller, on parle d'exercer une surveillance accrue de ce que nous laissons impacter sur nos cœurs. En hébreu, c'est le terme labé quand on parle de cœur, qui nous parle de notre être intérieur et du siège de notre volonté. Ce passage nous parle de source également. Et vous savez que les sources, on peut le traduire par frontière et extrémité. Ce matin, on a entendu parler de frontière. Vous savez, les sources d'eau servaient souvent à délimiter des nations. Les sources, c'était, ça permet, bah par exemple, ici on a une grande source, alors c'est pas une source, c'est le Rhin. À quoi sert le Rhin ? Enfin, bien sûr, c'est un canal avec de l'eau, mais il délimite quoi ? La France et l'Allemagne. Enfin, en tout cas, à hauteur de Strasbourg, je ne connais pas toute la géographie. Mais en tout cas, ici, quand on est au milieu du Rhin, Rémi me dit toujours qu'on ne peut pas jeter côté allemand. Sinon, si je commence à pêcher côté allemand, il y a tout le monde qui va arriver, et puis je vais avoir 3500 euros d'amende ou quelque chose. Le Rhin est une frontière. Ce passage nous dit de faire attention à ce que tu laisses, à ce que je laisse entrer dans les frontières, dans les limites de mes pensées. Pourquoi ? Parce que ce que tu vas laisser entrer va déterminer ce qui va sortir de toi. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a toujours quelque chose qui va jaillir en fonction de ce que tu vas laisser entrer. Ce que tu vas laisser t'influencer va déterminer comment tu vas agir. William MacDonald a fait cette citation: le cœur comprend la vie, l'intelligence, les pensées, les motivations, la volonté, les désirs. L'intelligence est la source d'où découlent les actions. Si la source est pure, le courant qui en sort sera pur aussi. L'homme est ce qu'il pense. Si nous cultivons, entretenons de mauvaises pensées, elles vont engendrer un fruit. Si je crois de mauvaises choses sur tel ou tel frère, sur telle ou telle sœur, alors je vais agir en conséquence. Je le dis souvent, mais si je crois que Michel pense des choses mauvaises de moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de l'éviter. Je vais commencer à construire un système de protection pour m'éloigner à cause peut-être de mauvaises pensées. Si je crois de mauvaises choses, ma relation avec les autres va être impactée. Cela va agir sur ce que je vais pouvoir bien leur dire ou comment je vais pouvoir évoluer avec eux. Plus nous passons du temps à entretenir de mauvaises pensées, que ce soit des mensonges, que ce soit de la jalousie, de la convoitise, de l'amertume et toutes ces choses, plus nous sommes conduits à pécher. Et c'est exactement ce que Jacques nous explique. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. Jacques décrit ici le processus de l'influence du péché. C'est lorsque nous laissons les mauvaises pensées prendre de la place en nous et que cela commence à mettre en place le péché qui va entraîner des situations de mort. Est-ce qu'il n'y a pas des situations de mort dans des relations que je peux avoir avec des frères ou des sœurs ? Des situations où on ne se parle plus, des situations où on ne se regarde plus, des situations littéralement de mort, des relations mortes, des relations coupées. Mais si, au moment où les mauvaises pensées arrivent, au moment où les mauvaises pensées traversent notre esprit, si on les oppose à la vérité de la parole de Dieu, qui nous dit de ne pas soupçonner le mal, par exemple, si je commence à opposer les mensonges où Satan veut m'embarquer face à la vérité de la parole de Dieu, il est possible de vaincre la puissance du péché. Amen. Le moment où nous pouvons vaincre, le moment où tu peux vaincre la puissance du péché, est lorsque celle-ci n'est encore qu'une pensée non exprimée. Lorsque tu n'as pas laissé le temps à la pensée de concevoir dans ton cœur. Lorsque tu ne donnes pas vie aux mauvaises pensées qui viennent en toi. Le souci, c'est quand on commence à la nourrir, à la remplir, alors on va agir en conséquence. Je vais vous citer l'exemple de la laiterie. C'est Neil Anderson qui donnait cet exemple. Alors aujourd'hui, c'est plus trop vrai à cause d'Internet, mais n'empêche que ça nous décrit le processus. C'est l'exemple d'un homme. Sa femme l'a envoyé aller acheter une brique de lait. Mais cet homme, il a aussi des problèmes avec la pornographie. Et deux choix se présentent à lui. Il va à la laiterie ou il va au bureau de tabac du coin qui sait que dans ce bureau de tabac-là, on vend du lait. Mais il sait aussi que dans ce bureau de tabac-là, on vend des revues pornographiques. Et puis cet homme, il commence à se dire, bon allez, je vais quand même aller acheter le lait au bureau de tabac, mais Seigneur, je ne vais pas regarder. Le processus est enclenché. Cette convoitise, cette envie, il aurait pu décider tout de suite d'aller à la laiterie, il aurait été empêché de tomber dans cette situation. Mais il décide d'aller dans ce lieu. Mais il dit, je ne vais pas regarder. Et puis quand il arrive dans ce bureau de tabac, Il dit, je jette juste un coup d'œil, juste un petit coup d'œil. Et puis le petit coup d'œil va l'entraîner à prendre la revue et à les payer en caisse. Alors bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ces petits coups d'œil. Parce qu'aujourd'hui, il y a juste Internet. Un petit clic quand personne ne voit. Peut-être qu'il y a certaines heures où il n'est pas bon que tu ailles consulter Internet, même si c'est pour, soi-disant, aller regarder le Top Chrétien. Peut-être qu'à minuit, c'est peut-être pas l'heure d'aller regarder le Top Chrétien, mais peut-être d'aller se coucher. Peut-être que Top Chrétien sera bien de le regarder quand ta femme sera à côté de toi et dit « Regarde ce bel article de Patrice Martorano ou je ne sais pas qui. » Il y a des moments où on peut vaincre, où on peut remporter la bataille dans nos pensées. C'est avant de commencer à lui donner du terreau fertile, avant de commencer à l'entretenir. L'opposition des mensonges de Satan à la vérité de Dieu va nous conduire à une alternative divine, à un véritable échappatoire. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous dit qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces, mais qu'il préparera une issue. Et c'est à nous d'entrer dans l'issue. Oui, il prépare. Le Seigneur prépare toujours. Qui n'a jamais vécu des warnings du Saint-Esprit dans son cœur qui dit « Attention, tu pars en zone rouge ». Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà vécu ces alertes du Seigneur qui dit « Attention, RP ». Tu pars sur un terrain glissant. Le Seigneur prépare toujours une alternative divine. Mais c'est à nous d'y entrer. C'est à nous d'y entrer. Mais le problème, c'est que bien souvent, on est séduit par notre péché. On a peur des conséquences, mais on n'est pas en train de haïr le péché. On aime le plaisir du péché, mais on a peur des conséquences. Alors après, on vient voir le pasteur et on dit « Pasteur, prie pour moi. » Parce qu'on est attiré par ce qui naît là-dedans. Ce qui est important, c'est que pour remporter cette bataille, nous avons besoin d'opposer le mensonge tout de suite quand il vient à la vérité de la parole de Dieu, à dire « Seigneur, je suis faible, mais j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. » Le Saint-Esprit allume des warnings lorsque nous sommes sur le point de nous laisser embarquer par la puissance du péché. Examinons nos pensées, discernons leurs origines en les comparant à la vérité de la parole de Dieu, en les opposant. Si je pense ce matin des choses mauvaises à propos d'un tel ou un tel, si je suis poussé à faire quelque chose alors que je sais que ça va me nuire et que ça va nuire à la relation, c'est que forcément je suis en train d'être un instrument de Satan. Si je sais qu'une parole que je vais aller dire à quelqu'un est là pour le blesser, c'est que forcément je suis en train de commencer à être manipulé par Satan qui veut semer son ivraie dans mon cœur. Frères et sœurs, on a besoin de Jésus. On a besoin de la vérité de la parole de Dieu ce matin. Je vais conclure ce matin et je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher. C'est au niveau des pensées, on l'a vu, que la bataille se situe. Et c'est aussi là que Satan se cache en essayant de nous faire passer son influence pour la nôtre, pour nos propres pensées. La Bible, elle dit que Satan, il est menteur dès le commencement et qu'en lui, il n'y a pas de vérité. Ce matin, nous sommes invités à opposer ces mensonges à la vérité de Dieu. Jean 8, 32 nous dit que c'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité ce matin qui fera de nous des hommes et des femmes libres. Amen. C'est la vérité. Voilà pourquoi nous devons entretenir notre relation avec Dieu. Si on ne veut pas que le feu s'éteigne, il faut aller amener du petit bois. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un feu de cheminée l'hiver, mais le feu, si on ne l'entretient pas, il meurt. Mais c'est à nous de mettre les bûches. Le Seigneur met le feu. Mais c'est à nous d'amener les bûches. Nous avons besoin d'entretenir notre relation avec Dieu en dépendant de lui afin que le Saint-Esprit puisse nous communiquer la vérité qui vient du cœur de Dieu et qui nous est transmise par sa parole afin que nous puissions agir en conséquence. Jean 17, 17 nous dit que c'est la vérité qui nous sanctifie et qui nous permet d'agir selon le cœur de Dieu. Et que cette vérité, c'est la parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit influencer nos cœurs lorsque nous méditons les Écritures. Vous savez, la nature, elle a horreur du vide. Et quand on se dit, oh, j'ai pas le temps de lire ma Bible parce que j'ai tellement de choses à faire, mais qu'on a largement le temps pour passer 2 heures devant Netflix ou des programmes sur Internet, on arrive à combler. On a toujours un besoin de remplir notre cœur. Et si on ne prend pas le temps, et ce n'est pas une question de religieux ce matin de dire il faut que tu lises ta Bible, c'est de prendre conscience ce matin que tu as besoin de connecter avec Jésus. Tu as besoin de saisir ces paroles afin qu'elles prennent vie en toi et que ça produise un fruit de justice, on l'a dit, et un fruit de sainteté. On ne doit pas être des simples consommateurs, mais on a besoin de venir au pied de Jésus pour vivre ce qu'il veut que nous vivions. Il nous a tout donné. Le feu est présent. La vie de l'Esprit, on l'a entendu, elle est là. Et c'est à nous de venir et de chercher la face de Dieu afin d'être remplis et agir en conséquence. Vous savez, si vous ne remplissez pas votre cœur de ce qui vient de Dieu, Satan trouvera les moyens, par les médias, par différents événements, par différentes situations, pour venir vous maintenir captifs. Il ne cessera pas de nous oppresser jusqu'à ce que son temps soit révolu. Et la Bible nous invite à lui résister. Saisissons-nous de la parole de Dieu, frères et sœurs. Saisissons-nous des promesses de Dieu, afin de tenir ferme, et ce, chaque jour. Jésus nous a promis que la vérité produit ce qui est juste et agréable à Dieu, pour ceux qui décident de marcher avec lui. Ce matin, j'ai envie qu'on proclame tous ensemble stop aux mensonges de Satan et oui à la vérité de Dieu. Je ne sais pas avec ce que tu es venu captif ce matin dans ce lieu, mais je crois que le Seigneur veut déclarer ce matin qu'il y a moyen que tu choisisses la vérité ce matin. Et il y a moyen que tu puisses vivre libre et complètement libre des chaînes du péché. Mais tu as ta part à faire. Tu es participant avec Jésus. Je veux inviter ce matin ceux qui sont peut-être en proie à des combats, simplement à vous lever à votre place. Ça ne va pas être quelque chose de magique ce matin, c'est de dire « Seigneur, j'ai compris que je dois prendre position ce matin. » Peut-être des gens qui se sentent liés par peut-être des puissances démoniaques, qui croient que l'ennemi est en train d'habiter en eux. Si le Christ vous a franchi, la Bible nous dit « Vous serez réellement libre. » Ce matin, saisis ta liberté. Je veux vraiment inviter ce matin à nous mettre debout devant notre place et dire « Seigneur, on a compris. Je saisis qu'il y a un combat qui se joue dans mes pensées. » Mais Seigneur, je veux saisir ta vérité afin d'être un homme et une femme libre ce matin. Alléluia. Jésus, je te prie ce matin pour ceux qui se lèvent dans ce lieu. Je te prie ce matin de continuer à agir en eux, de continuer à les accompagner. Je te prie que ton esprit vienne leur parler alors qu'ils décident de mettre des bûches dans le feu au quotidien. Ce matin, je te prie pour que des captifs soient libérés au nom de Jésus. Ce matin, on veut proclamer à Satan et à toutes ses puissances qu'il n'a aucun droit sur nos vies parce que nous appartenons à Jésus et que Jésus fait de nous des hommes et des femmes libres dans ce lieu. Jésus veut que nous soyons ce peuple libre, ce peuple qui triomphe, qui affronte les difficultés avec la puissance du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit vient parler au cœur ce matin au milieu de nous. Je crois que Jésus veut continuer à nous amener plus loin, à vivre et saisir cette vie qu'il a pour nous. Alléluia. Ce matin, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les mensonges que Satan a pris sur vos pensées tombent au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, que nous avons notre part à faire. C'est pas juste une prière et puis la vie continue et puis Koh-Lanta va continuer, Galerie continue de survivre. Mais j'ai ma part à faire ce matin. Saisir la liberté des enfants de Dieu au nom de Jésus. On va prendre ce chant, quelle grâce incomparable, mais que ça puisse être une prière ce matin. De dire, Seigneur, je saisis ta grâce aujourd'hui et je proclame que ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, alléluia.